Charles Ferdinand Ramu, Nouvelle. Halte des forains. On avait fait une coupe rase dans le bois de pin au bord du fleuve. Il coulait, là, grisâtre, entre ces digues surélevées qui faisaient qu'on ne le voyait que parvenu à son extrême bord, et il ne donnait aucun autre bruit à entendre une espèce de frémissement léger et continu, comme quand on passe la main sur une étoffe de soie, tellement il est étendu en avant, tellement il hésite peu dans sa course lisse et précipitée qui le porte à la mer et la montagne tout entière avec lui. Les troncs avaient été coupés à un pied au-dessus de terre, ce qui faisait qu'il y avait partout comme des tables pour manger et des sièges pour s'asseoir. Il y avait un petit feu au milieu de la clairière. Sur ce feu était posée une marmite à trois pieds. Et, assise sur un des troncs, il y avait une femme, tandis qu'un vieux cheval, très maigre, avec un gros ventre, un vieux cheval autrefois blanc, mais avec des couleurs vertes sur le ventre et le long des cuisses, broutait non loin de là, attaché à un arbre, les quelques pouces que le tapis d'aiguilles laissait percer de place en place. Un tapis roux, bien lisse, élastique et feutré, où réussissent quand même à prospérer de ci de là quelques plaques de mousse, ou à fleurir deux ou trois fleurs, jaunes ou roses, le mélilot, la saponaire qui se balance dans le vent. Le cheval broutait, allongeant le cou, découvrant de longues dents jaunes, le museau tout frangé d'écume sèche ou des débris de mastication restés pris. La femme, elle, glissait de temps en temps sous la marmite un morceau de bois mort dont elle avait une provision à portée de la main. Personne. Il fait roux et doux. Il fait chaud. Mais dans cette chaleur, à une certaine place, circulait un courant d'air frais qui faisait s'envoler et papillonner autour de sa tête les mèches noires de la femme comme des plumes de corbeau. De temps en temps, elle soulevait le couvercle de la marmite. Ça sentait la pomme de terre et la carotte. Elle soupirait. Elle se penchait en avant et, assurant son coude sur son genou, faisait en sorte que son menton vint s'allonger dans la paume de sa main qu'elle tenait renversée. Elle soupirait encore, elle secouait la tête. Elle avait les jambes nues jusqu'au-dessus des genoux, des jambes rondes, belles et pleines, qui avaient la couleur du froment mûr, avec des éclaboussures de boue qui avaient séché dessus. Une jupe noire et frangée, un corsage blanc déchiré à manches courtes. Et elle est là, qui cuit sa soupe. Elle soupire. Elle pensait. Qu'est-ce qu'elle va dire? Elle prêtait l'oreille, levant la tête de temps en temps, comme si elle attendait quelqu'un. Et ce quelqu'un est alors arrivé. Elle l'a entendu venir de loin, quoiqu'il ne fît aucun bruit avec ses semelles de corde. Mais c'est le craquement du bois mort sous les pieds ou une branche qu'on déplace parce qu'il apparut, venant là-bas entre les troncs, avec sa grande démarche souple et une espèce de gros surtout de toile grise qui bouffait drôlement dans le haut de sa personne. Il s'approcha d'elle, il ne dit rien, elle n'avait pas bougé. Il souleva le couvercle de la marmite. Il haussa les épaules. Il les laisse retomber. Tout ça? T'as rien d'autre? C'est dans cette clairière au bord du fleuve, à 3000 mètres au-dessus d'elle, tellement haut dans les airs que c'est à peine si le regard peut l'atteindre, vous surplombant, il y a le bout d'une montagne, dont la base est cachée par les arbres qui poussent de l'autre côté du fleuve, et qui en émergent tout à coup, les surmontent, les dominent. une espèce de tour pointu, une aiguille, une dent qui est là sous son revêtement de neige. Elle est là, on ne le sait pas, il faut qu'on renverse par hasard la tête. Mais aussitôt, le regard s'en détourne tant son éclat est insoutenable, tandis qu'elle jette ses feux, en domination aussi aux grandes gorges bleues qui lui servent de soubassement, étant tout en lumière au-dessus de ses ombres. Cependant, l'homme a dit « Regarde ». Il a rapidement déboutonné son surtout, dont il a écarté les pans. Il en tire quelque chose de bariolé qu'il lève en l'air. Un grand beau coq avec toutes ses plumes, comme du cuivre autour du cou qui pend, car il le tenait par les pattes, plus bas, verte, avec des reflets, et une grande crête rouge. « Tu le mettras cuire pour ce soir. Seulement, a-t-il dit, il te faut vite le cacher. » « Où ça ? Je ne sais pas, tu trouveras bien, mais dépêche-toi. La police est à mes trousses, ou ce qu'ils appellent le garde-champêtre. Ils viendront fouiller partout. » « Donne, dit la femme. » L'homme lui tend le coq. Elle va prendre dans la voiture un linge qu'elle a entortillé autour de la bestiole. Elle le leste d'une grosse pierre, puis, empoignant une ficelle, « Viens seulement !» Il n'y avait que quelques pas à faire. Le fleuve était là, coulant au-dessous de vous, entre ses digues. Elle a jeté le paquet dans le fleuve en le tenant par l'autre bout de la ficelle qu'elle n'a plus eu qu'à attacher au tronc d'un saule. « Bien malin, dit-elle, qui viendra le chercher ici ?» L'eau était à la fois d'une parfaite limpidité et parfaitement trouble à cause du sable qu'elle tient en suspension. C'est toute la montagne qu'elle élimine ainsi, étant jalouse d'elle, et qu'elle déporte à la mer. Mais que vous en puisiez, tout aussitôt, cette eau se départage. Le sable va au fond et il ne reste au-dessus qu'une parfaite pureté, une parfaite transparence. Ça va bien, dit l'homme. Il se redresse. Il est au bord du fleuve. Il se tient tout droit. L'eau chemine. Il est immobile. Il introduit dans sa bouche un doigt de sa main gauche et un doigt de sa droite et, tirant dessus de côté ce qui lui a distendu les lèvres, il fait entendre un sifflement prolongé et aigu qui s'en va au loin dans le bois. Ils entendront. Allons vite manger la soupe avant qu'on ne soit embêté. Il est revenu s'asseoir à côté de la marmite. Sa femme l'a suivi. Elle avait prélevé, en passant dans la voiture, 4 assiettes de fer battu, 4 cuillères. Elle avait pris place à côté de son mari. De temps en temps, il lui faisait signe de se taire. Il écoutait. Personne ne venait. Sauf que c'est à ce moment que les enfants se sont montrés, ayant obéi au coup de sifflet. Une fille de 8 ans et un garçon de 10. Pieds nus, lui une vieille culotte déchirée, elle une jupe en lambeaux. Les mains et la figure toutes noires, tous les deux, à cause des myrtilles. La mère plonge les assiettes l'une après l'autre dans la marmite. Tout le monde s'est mis à manger. On n'a rien entendu pendant un moment, que le bruit des cuillères contre les assiettes. Mais la soupe s'est vite avalée. Il se passe la main sur les lèvres. Le père se lève et dit « Il y aura mieux ce soir ». Quoi ? Ont dit les enfants. Vous verrez, a dit le père. Moi, il faut que j'y aille. Il s'est dirigé vers la voiture, car il y avait encore la voiture. Une voiture à 4 roues avec une bâche montée sur arceaux, bien tendue, et qui faisait comme un tunnel où il pénètre en se baissant. Puis en est ressorti, ayant sur le dos une table et un fauteuil. C'est leur métier à ces forains. Avec des jets de coudrier et de losier, ils confectionnent des espèces de meubles. Ils entourent une planche d'une bordure festonnée. Ils collent sur la planche un bout de papier peint. Et le fauteuil que portait l'homme avait un siège vert semé de nénuphars. La table, un dessus rose à fleurs blanches. Il a dit « Je m'en vais ». Il s'est éloigné. Les enfants cueillaient des framboises. La femme se peignait avec un vieux peigne ébréché en se penchant sur un miroir qu'elle tenait de l'autre main. Et c'était dans le ciel, comme si la montagne de temps en temps bougeait, vous envoyant de haut en bas une délégation de reflets qui vous obligeait à baisser la tête. Il faisait plus chaud. La terre était rouge. Les troncs des pins, comme de longues flammes qu'on voyait se tordre tout autour de vous, sous l'épaisse fumée noire de leurs branches emmêlées, qu'un coup de vent par moment soulevait, laissait mollement retomber. L'odeur de la résine est flatteuse aux narines. La femme a été lavée avec du sable les assiettes. Elle revient. Elle a repris sa place. Elle avait le nez fin, les yeux allongés. Elle avait une peau très brune, avec un peu de rouge, comme une prune reine Claude. Elle avait un mari. Elle avait deux enfants. Elle avait les jambes nues. Elle bâille. Elle s'ennuie. On a entendu marcher. On s'en venait depuis la route qui passe de l'autre côté du bois. Elle n'a fait semblant de rien. Elle n'a pas tourné la tête. Elle a fait seulement glisser ses yeux dans leur cavité bien huilée sur le côté de sa figure. On s'avance. Un petit homme déjà vieux avec une barbiche, une blouse grise, un chapeau de feutre noir. Il a dit « Bonjour, que faites-vous là ?» La femme sans lever la tête « Vous voyez ?» L'homme a dit « Ça n'est pas tout ça, vous avez vos papiers ? Je suis le garde champêtre. » La femme s'est alors déplacée légèrement, introduisant la main dans une fente de sa jupe, laquelle correspondait à une fente pratiquée dans un sac de toile qu'elle se nouait autour de la taille. Elle en a tiré un carnet au bord mâchonné. Elle a dit « Voilà. » « Moser, » lisait le garde champêtre. « Moser Hector, qui c'est ?»«
C'est mon mari. »
« Moser Olga, 24 ans, c'est vous ?»«
C'est moi. »
« Moser Aloïs et Moser Georgette,
c'est mes petits. »
« Où est-ce qu'ils sont ?»«
Dans le bois. »«
Bon, » dit le garde champêtre, « mais à présent votre patente. » Elle recommence son manège. Avec négligence et lenteur, elle se renverse légèrement, introduit la main dans sa poche, en sort un nouveau carnet. Tout est parfaitement en règle. Le garde champêtre était vexé.
Ça va bien pour cette fois. Seulement, faites attention. Où est-il, votre mari?
Il est en tournée.
Méfiez-vous, on a l'œil sur lui. C'est un mauvais gueux. La prochaine fois, qui sait, les choses n'iront pas si facilement. Il y a eu des vols, on a porté plainte. Il est signalé. Vous le lui direz de ma part.
La femme a dit. Je le lui dirai. Le garde champêtre porte alors la main à son chapeau. Le garde champêtre s'en va. Elle met les coudes sur ses genoux. Elle met son menton dans ses mains. Elle regarde vaguement devant elle. Par une encoche dans la digue, de sa place surélevée, elle aperçoit tout juste l'eau du fleuve à son sommet. L'eau fait une ligne droite, faiblement indiquée en gris, comme une corde bien tendue.
De temps en temps, de place en place, elle se soulève brusquement, retombe. C'est un faible battement comme celui du sang dans une artère. Et le mouvement qui emporte l'eau la tire en avant, tandis qu'on n'entend aucun bruit autre que celui des mouches qui vous passent aux oreilles. Et dans les profondeurs du bois, les criailleries des geais. Elle regarde cette eau qui descend des glaciers et que son emportement même condamne à être immobile. Ça donne sommeil. Elle avait fermé les yeux. Elle les a rouverts. C'est son mari qui revenait. Qu'est-ce qu'il a dit ?
Il m'a demandé nos papiers, c'est tout.
Et toi, dit-elle, tu n'as rien vendu ?
Oh, dit l'homme, j'ai pas cherché. J'ai suivi le garde champêtre. Je voulais voir où il allait. On va pouvoir faire les choses tranquillement. Il est parti pour les hauts.
Va prendre le coq, recommence-t-il. Mais préalablement, il siffle entre ses doigts. Les enfants reparaissent. Prends le cheval, dit-il au garçon. Tu t'en vas par là. Tu te posteras au bord de la route. Si tu vois venir quelqu'un de pas sûr, rapplique. Et à la fille. Toi de ce côté, et tu feras la même chose que ton frère. Le cheval, pendant ce temps, broutera l'herbe du talus. On ne pourra pas vous embêter, le talus est à nous. Il est à tout le monde. Il est allé avec sa femme au bord du fleuve. L'eau est toujours là, la même. Sa profondeur, on ne la connaît pas. Il n'y a que sa mince couche supérieure qui vienne aux yeux avec ses faibles intumescences, toujours nouvelles, toujours pareilles, car rien ne change. On n'a eu qu'à tirer sur la ficelle et le coq est venu au bout. Ils s'installent, l'homme et la femme, sur la berge. On a le temps. La grande montagne les regarde. La femme tient la tête du coq serrée entre ses genoux nus. Elle tire sur les grandes plumes et les petites, celles des ailes, celles du cou, faisant sortir avec peine ces tuyaux transparents de leurs alvéoles. Son mari la surveille. Il a creusé dans le sable un trou où, à mesure qu'elle tombe, il fourre les plumes tombées. Celles qui sont couleur d'aurore, celles comme le lever du soleil, celles comme un incendie, et puis les sombres, celles de la nuit, celles qui sont pareilles à l'ombre qui s'entasse au-dessus d'eux dans les ravines, les vertes avec des reflets bleus, les bleus aux reflets verts qui s'accumulent à ses pieds pêle-mêle. Le coq est devenu tout petit. L'homme le soupèse. « Oh, dit-il, il y aura quand même de quoi faire. Sans voir, il n'est pas gras, mais il est bien en chair. Donne-le-moi que je le vide. » Il a pris dans sa poche un couteau à cran d'arrêt. On n'a qu'à tenir écartées les pattes et les ailes de manière à tendre la peau. L'homme la fend de la tête à la queue. C'est dégoûtant, mais vite fait. « Dommage qu'on n'ait pas un chien, dit l'homme. Mais tant mieux pour les renards. » Il est de belle humeur, sa femme aussi. Les plumes ont disparu, les plumes sont enterrées. Alors, avant de se lever, sa femme le regarde, puis son regard continue de monter. Elle renverse la tête, elle l'a renversée davantage encore. Son mari est debout à côté d'elle, il attend. Elle rit.
Qu'est-ce que tu as ?
T'es pas grand. Elle fait signe de la tête vers là-haut. « T'es pas grand en comparaison. »«
Oh, dit-elle, moi non plus, je sais bien. Seulement moi, je ne me vois pas. »«
Allons-y, dit l'homme. Mets de l'eau dans la marmite. » Il tient le coq par le cou qu'il a enroulé autour de sa main et qui est flasque, comme une corde grasse. « On y va, dit-elle. » Et cependant, regarde de nouveau là-haut. Parce qu'il s'y passe des choses. À cette plus extrême pointe et surplombante, il se fait des déplacements. C'est la neige qui la recouvre. On dirait des ailes d'ange. Elles battent doucement. Par un jeu de reflets, elles changent de place. Elles changent aussi, peu à peu, de couleur. Elles deviennent fauves à leur centre. Elles rougissent sur les bords. Les nuances qui les déterminent passent insensiblement d'un champ de neige à l'autre. On dirait des ailes d'ange, ou bien quand le cygne avec sa blancheur vous vient dessus, tout gonflé de colère. Et, posés sur leur socle de reflets noirs et de fissures pleines d'ombre, il semble finalement, ces neiges, qu'elles ne lui appartiennent plus. Elles s'en détachent, elles deviennent aériennes. Elles se sont mises à flotter dans le ciel comme un nuage.
Qu'est-ce que tu attends? Arrive!